Moi, j'ai envie de demander à Vincent Duluc, justement, à quand un chat président d'un club de foot, hein? C'est pas mal, ça.
Ouais.
C'est pas complètement con. Non, ben, il rigole, mais non, pourquoi pas.
Parce qu'on a déjà beaucoup dit que Didier Deschamps avait un animal de compagnie pour l'accompagner.
Ah, c'est son cerveau. C'est son cerveau.
Non, c'était pas ça. Pour dire qu'il avait de la chance.
Ah, d'accord, c'est ça. Merci beaucoup, Yolaine.
Merci.
On vous retrouve demain matin, dès 6h45. Exactement. Alors, vous, Vincent Duluc, vous êtes le spécialiste de l'équipe de France depuis 30 ans. Un petit mot hier sur Manchester PSG. Tableau d'honneur pour nos champions du monde.
Oui, parce que c'est la première fois qu'une équipe française gagne à Manchester United. C'est la première fois dans l'histoire de ce club centenaire qui perd un match de Coupe d'Europe par deux buts d'écart à la maison. Donc, il ne faut pas diminuer la performance. Après, c'est vrai que Manchester United a confirmé des fragilités qu'on avait un petit peu vues, notamment défensives, que les Parisiens ont su être patients et que même sans Neymar, même sans Cavani, ils ont réussi à faire la différence en deuxième mi-temps. Mais ils ont dominé un peu dans tous les domaines. Et c'est vrai que quand c'est facile, on a toujours tendance à diminuer un peu la performance en disant oui, mais en face, il y a un seul tir, ils n'ont rien fait. Mais moi, je trouve que vraiment Paris s'est comporté en équipe.
Et pourtant, on partait perdant. Hein.
Exactement, a apporté toutes les réponses à un moment où, au contraire, il y avait une espèce de, enfin, où il y avait plusieurs nuages qui s'étaient un peu accumulés ces dernières semaines.
Ouais, mais ils ont peut-être mieux joué sans les stars, les deux stars de l'équipe Cavani, non? C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de leur donner le ballon et Mbappé finalement s'est retrouvé dans un nouveau rôle, quoi.
Hein, oui, mais je suis pas sûr qu'Mbappé puisse être attaquant axial en permanence à ce niveau-là.
Non, mais il est pas quand on joue à l'extérieur, parce que vous avez dit dans votre article, vous dites comme à la maison, mais oui. Comme à la maison parce qu'ils ont gagné comme à la maison, mais...
Oui, mais on a vu qu'en première mi-temps, quand il n'y avait pas d'espace, il avait du mal à jouer dos au jeu et qu'il lui faut des espaces, partir de loin. Là, on rentre un peu dans la technique. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas céder à cette facilité-là de dire que c'est mieux sans Neymar, c'est mieux qu'Avani, parce que c'est forcément mieux avec eux.
En tout cas, c'était bien comme ça, on était très contents. Et ce matin, pour ce livre, Enfant de la balle. Le foot, c'est à peu près 2 millions de licenciés dans le monde, à peu près 5%.
En France, environ
5% des jeunes arrivent dans des clubs de formation. Très peu sont professionnels aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres?
Mais c'est ça qui est assez fascinant, c'est que d'un côté, on a l'impression qu'on examine un peu leur jeunesse à tous, à ces champions du monde de 2018, qu'ils ont vécu la même jeunesse que, j'allais dire, que nous, que tous ceux qui ont joué au foot un jour, finalement. C'est-à-dire de prendre son sac.
D'aller jouer en bas de son immeuble.
De jouer avec ses grands frères.
De jouer dans la cour de récré, de partir à l'entraînement le mercredi, de jouer le samedi, etc. Et il y a un moment, ça bifurque parce qu'ils ont quelque chose de plus que les autres. Alors, si on cherche un peu ce qu'ils ont de plus que les autres, c'est évidemment le talent. Mais contrairement à l'idée reçue, le talent, en fait, c'est encore ce qui est le plus partagé. Ce qui fait la différence, c'est parfois l'environnement familial, parfois le caractère, la capacité à progresser, l'orgueil, le refus de la défaite. Le refus de la défaite.
Tant que c'est passionné, c'est le refus de la défaite.
Mais c'est quelque chose, c'est une vraie constante. C'est-à-dire que ces gars-là, ils détestent, ils peuvent faire un caprice parce qu'ils perdent aux cartes ou au Monopoly.
Ouais.
Et moi, quand je joue au Monopoly, ça m'est égal de perdre, donc j'avais aucune chance.
Mais c'est intéressant parce que vous expliquez, alors ce sont des parcours croisés, hein, vous expliquez comment ces garçons ont été élevés, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été élevés. On parle beaucoup d'enfants de banlieue, mais il n'y a pas autant d'enfants de banlieue que ça. Vous expliquez aussi.
C'est surprenant, ça.
Et ce qui est assez surprenant, c'est beaucoup de grandes villes, ou en tout cas beaucoup de tours de grandes villes, enfin j'allais dire de banlieue de grandes villes, d'agglomérations. Et vous dites que ces enfants disent que c'est compliqué de devenir champion du monde quand on est issu de la zone rurale.
Mais c'est la réalité, quand on regarde vraiment, ça n'existe pas. Mais je pense que c'est dû quand même à l'encadrement et à l'émulation. C'est-à-dire qu'il vous faut des entraîneurs, et les bons entraîneurs, ils ne sont pas forcément dans les villages, ils sont plutôt dans les grandes villes, parce qu'il y a plus d'équipes, il y a un brassage de population plus important, donc plus de meilleurs joueurs. Et les générations spontanées, on sait très bien, elles viennent plus de l'émulation que du hasard. Donc en fait, il faut réunir les bons joueurs au même endroit, au même moment, pour en sortir deux, pour en sortir trois, qui vont s'élever grâce aux autres. Et dans les zones rurales, forcément, c'est plus difficile de s'élever grâce aux autres, parce qu'un bon joueur va être complètement au-dessus des autres. Mmh. À la limite, celui qui vient, on peut venir de la province, mais de la ruralité elle-même, c'est beaucoup plus difficile. À la limite, le plus provincial, c'est peut-être Florian Thauvin, qui habite dans un petit village à côté d'Orléans.
Ah oui, il y a des cas quand même, ça existe.
Mais il a quand même fallu qu'il aille à Orléans, et Orléans, c'est déjà une province un peu plus élargie.
Alors, on parle beaucoup d'argent, on a l'impression que tout est facile pour les joueurs de foot, on parle quand même, dans votre livre, et ça c'est bien de le signaler, beaucoup de sacrifices aussi, puisqu'on est dans des clubs de formation, il y en a qui ne voient pas leurs parents, il y a une éducation un petit peu particulière, c'est une vie de sacrifice. sacrifice, en tout cas au début, parce que bah, ça peut être très long, très rapide, mais très long.
Mais ça, c'est une réalité, effectivement, mésestimée. C'est que forcément, à chaque fois qu'Antoine Griezmann, quand il avait 12 ans ou 13 ans, il rentrait à Mâcon voir ses parents, bah, le dimanche soir, il repartait en Espagne et il pleurait jusqu'à l'aéroport. Mmh. Et c'est comme ça. Voilà, c'est pas des vies ordinaires. Et en plus, c'est des gamins ou c'est des mômes, parce que ça reste des mômes longtemps. Et même d'ailleurs, parenthèse, à l'échelle de la vraie vie, quand à 20 ans ou 21 ans, ou à 20 ans comme Mbappé, il faut répondre à des questions devant tout le monde. Ouais. Mais dans la vraie vie, des mômes de 20 ans, ils sont pas prêts à ça. Et eux, ils sont déjà prêts à ça. Mais au-delà de ça, ils sont donc en concurrence toute leur vie, tous les ans. C'est-à-dire qu'à partir de 11 ans, de 12 ans, il faut absolument qu'ils soient les meilleurs jusqu'à la fin de l'année. Dans les centres de formation des clubs professionnels, là où ils sont donc préparés à devenir footballeurs, à la fin de chaque année, en avril, en mai, tous les joueurs reçoivent un courrier pour dire « on te garde, on te garde pas ». Donc ils sont dans ce stress permanent, dans cette concurrence permanente.
Cette pression.
Et c'est quelque chose d'assez violent. Et donc ils se construisent par rapport à ça.
Ils grandissent trop vite.
Mais ça en détruit beaucoup. Je ne sais pas s'ils grandissent trop vite. En tout cas, ils sont obligés de grandir vite. Ils sont obligés de grandir différemment. Ils sont obligés d'être assez matures pour à 20 ans, 22 ans, peut-être avec l'aide d'un agent, mais discuter avec un grand patron du 440 de leur prochain contrat. Et ça, c'est forcément, il y a un décalage et ça demande une maturité assez incroyable.
Alors, on voit aussi, vous parliez de l'entourage et de la famille, on parle de Mbappé. Moi, j'ai appris dans votre livre qu'il avait pris des cours de théâtre, ce qui lui permettait aujourd'hui d'avoir cette facilité au micro et d'irriguer aussi ses camarades, puisqu'il a fait, il a permis à Pogba et à d'autres de pouvoir justement s'exprimer plus correctement.
Je ne sais pas s'il a permis, mais en tout cas, il les challenge finalement. Ouais. Parce qu'on sait très bien qu'il y a toutes les questions d'ego dans une équipe, toutes les questions de position, et pas seulement à l'arrière du bus. Il s'agit voilà, d'occuper l'espace médiatique. Et je pense que quand les aînés comme Pogba et Griezmann, qui ne donnaient pas beaucoup en conf de presse, Pogba ne venait pas et Griezmann donnait peu, ont vu que Kylian Mbappé, 19 ans, arrivait à Moscou devant la presse du Monde et était très à l'aise et faisait des blagues et des trucs, ils se sont dit on ne peut pas lui laisser cet espace-là, il faut revenir. Donc oui, effectivement, à ce moment-là, il rentre un peu dans ce jeu-là. Mais Mbappé, c'est l'exemple type d'une programmation absolue. Il passe pour un gamin de banlieue, mais en fait...
Pas du tout.
Il vient de Bondy, mais...
C'est un peu de banlieue, quand même.
Oui, mais il est issu d'une classe moyenne. Il est issu d'une classe moyenne, il n'a jamais eu de problème d'argent.
Il
n'a jamais manqué de rien. Il a pris des cours
de
théâtre.
Son grand frère jouait au foot aussi.
Il a pris des cours de flûte.
Flûte traversière, c'est drôle. Voilà,
son frère aîné... flûte traversière, pour parler à ProMédia, je pense que ça peut aider.
Je voulais faire la balle, mais je n'ai pas osé.
Et son grand frère, Jires Kembo, a été professionnel au Stade Rennais en équipe de France Espoir. Donc oui, tout a été chez lui une programmation et ce qui lui arrive lui paraît complètement naturel.
Ouais. Bon, en tout cas, voilà, ça s'appelle Enfant de la balle, Vincent Duluc, c'est passionnant. Franchement, j'ai appris plein de choses. Et puis ça donne aussi des idées, des envies peut-être à des gamins qui rêvent d'être un jour champion du monde. Parce que ces gamins-là, et faut en l'occurrence Mbappé, ils savaient qu'ils seraient champion du monde. Ouais. Ils le voulaient vraiment et je pense qu'il faut vraiment le vouloir.
Il faut le mettre aussi entre les mains des parents.
Ouais,
sur ce
parents.
Livre aussi.
Des parents, parce que souvent, c'est eux qui les motivent, c'est eux qui les éduquent. Et c'est vrai qu'on a des footballeurs peut-être aujourd'hui un tout petit peu plus éduqués qu'avant.
Ils sont bien éduqués, mais surtout les parents, il faut qu'ils apprennent à garder la distance avec leur gamin par rapport au foot. Parce qu'on voit tous les samedis après-midi autour du terrain, c'est la plaie du football d'aujourd'hui.
Vas-y, surtout pas.
Il faut faire attention à ça.
Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vincent Deluc. À lire absolument, c'est aux éditions Larousse, ça s'appelle Enfant de la balle.
Bon.
Merci, à demain Patrick.
Oui, à demain, vous voulez revoir
en replay. On va faire 2-3 dribbles.
Oui, vous voulez voir en replay, non, ce match
Oui, arrêtez Patrick.
Parce que vous ne l'avez pas vu.
Non, mais j'avais demandé à la France entière de rien me dire. Depuis ce matin, tout le monde en parle. Interdit d'en parler. Arrêtez. Ouais. Je ne connais pas le résultat. Restez avec nous.
C'était impossible. Et franchement, c'était un beau match.
Oui, ça va.
Oui. Et Mbappé, quand même, malgré tout. Kimpembe aussi, le jeune qui est probablement dans les enfants de la balle.
Son premier but.
A été formidable aussi.
Oui, parce que je l'ai lu dans l'équipement.
Voilà, c'est ça.
Restez avec nous, les 9h58.